Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio PFM 99.9 pour l'Actualitim, l'émission de débat entre lycéens. Et avant de commencer, voici une musique qui devrait vous indiquer notre sujet de la semaine. Cher chroniqueur, j'ai de la fièvre, j'ai du mal à respirer, j'ai une toux forte.
Mais c'est que t'as une grippe, Arthur. Lave-toi les mains, prends le micro. On est ensemble pendant 30 minutes sur Radio PFM 99.9.
Et aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas seul. Je vous présente Thomas.
Bonjour.
Qui vient de m'assister brillamment dans cette introduction d'émission. Sarah Florentine.
Bonjour.
Julien Régis.
Bonjour.
Et moi-même, Arthur, à l'animation. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de l'Actualitim, où nous allons, vous l'aurez compris, évoquer le sujet du coronavirus. Alors, une petite introduction, présidée par mes soins, pour pouvoir introduire et apporter des éléments clés au débat qui précédera juste après. L'épidémie de coronavirus continue de sévir en Chine. Les autorités de Pékin ont annoncé jeudi 30 janvier que le nouveau coronavirus avait fait 170 morts et que 7700 personnes étaient contaminées dans tout le pays. L'avion A340 destiné à rapatrier les Français de Wuhan en Chine est parti jeudi matin de l'aéroport de Roissy. Alors où en est l'épidémie? C'est une interminable expansion avec de nouveaux cas recensés tous les jours en Asie et dans le monde. 60 millions de personnes cloîtrées chez elles et mises en quarantaine sanitaire. Il faut rappeler que le temps d'incubation est de 14 jours, c'est-à-dire le temps entre le moment où l'on attrape le virus et celui où les syndromes qui lui sont liés se déclarent. Alors comment se transmet ce virus? Alors principalement par les voies aériennes, bien entendu, sanguine et de manière générale lorsqu'il y a un contact physique avec la personne atteinte. Qu'en est-il de sa propagation? L'Asie, l'Australie et l'Amérique du Nord sont les plus touchés pour le moment. En Europe, la France avec 6 cas et l'Allemagne sont les seuls pays en Europe à être touchés, avec le concours également de la Finlande. Et qui sont fortement embêtés ces pays européens dans la prise en charge des patients. Alors d'où vient-il ce virus? Il est vraisemblablement d'origine animale, probablement d'animaux sauvages l'ayant transmis à l'homme. Impact local et international donc, hein, bien évidemment, en Chine mais aussi dans les autres pays du monde. La réponse gouvernementale de la Chine a été rapide et radicale. Le rapide, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais en tout cas radical, dans la mesure où il y a eu la construction de deux hôpitaux spécifiques au traitement de maladies infectieuses liées au coronavirus, bien évidemment, et donc conformes aux standards de prise en charge des personnes atteintes du virus. Alors, ces hôpitaux ont été construits en une dizaine de jours, ce qui est un temps record pour ce type d'infrastructure qui, habituellement, nécessite plusieurs mois de travail. L'ouverture a eu lieu aux alentours du 5 février. Au niveau international, les pays frontaliers comme la Russie ont fermé leurs frontières et les pays non frontaliers suspendent leurs liaisons aériennes avec l'Asie. Impact direct d'une panique naissante, une paranoïa autour des individus d'origine chinoise ou asiatique s'installe dans le monde, introduisant une forme de discrimination. L'OMS a qualifié cette situation justement d'urgence internationale et invite les pays à prendre les dispositions nécessaires, alors plus particulièrement en Chine notamment, à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir enrayer ce virus, mais également dans les pays en dehors de la Chine, à apporter leur concours à la résolution des problématiques sanitaires liées à ce virus. Alors, cher chroniqueur, la première question que je souhaite vous poser, est-ce que ce virus vous inquiète?
Alors, oui, il m'inquiète, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de remède à ce virus. Donc, ça m'inquiète à moitié, on va dire, parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cas en France, mais le fait qu'il se propage rapidement et que on n'ait pas de remède, ça m'inquiète un petit peu.
Thomas?
Moi, je suis pas très très inquiet. Je vois que, par exemple, le cas du SRAS ou encore d'autres types de coronavirus, ou simplement les mesures de confinement ou juste de confinement, ont servi à stopper la propagation ou l'épidémie. Donc je vois que, bon, pour l'instant, c'est assez cantonné à la Chine. Et il n'y a pas trop...
Il y a un jeu de mots là-dessus, là.
Il y a un jeu de mots.
Oui, je le soulève.
Et non, pour l'instant, je ne suis pas très très inquiet.
D'accord. Alors, on peut rappeler que le taux de létalité de ce coronavirus est d'environ de 3,5%. Ce taux a tendance à diminuer progressivement, peut-être en raison d'une meilleure prise en charge des personnes infectées. À titre indicatif, le SRAS, qui avait touché différents pays du monde en 2002-2003, avait fait 5300 infectés environ. Alors, deuxième question que j'aimerais vous poser, les mesures de protection en France sont-elles suffisantes à votre sens ?
Oui. Moi, je pense qu'elles sont suffisantes parce qu'on a eu, dès qu'on remarque des cas touchés, il y a tout de suite une prise en charge qui est faite et les personnes sont directement mises en quarantaine et même sont parfois guéries. Il y a eu plusieurs cas de personnes qui ont pu sortir des hôpitaux complètement guéries. Pour moi, c'est très bien.
Thomas ?
Je vois aussi que c'est pris en charge aussi dans tout ce qui est aéroport, gare. Où transitent beaucoup de passagers. Par exemple, ils prennent la fièvre avec des caméras thermiques. Donc, ils peuvent comme ça facilement repérer les gens infectés ou non.
Alors, la thématique que tu soulèves autour des transports, notamment aériens, au sein des aéroports, m'intéresse particulièrement. Parce qu'il faut savoir qu'en France, encore aujourd'hui, alors, bien sûr, les liaisons aériennes provenance de la Chine ont été interrompues, mais au début de la crise, il n'y avait pas eu un contrôle ni un confinement obligatoire des personnes qui débarquaient sur le territoire national. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne vous a pas inquiété à l'époque ? Parce que le ministère de la Santé se contentait de distribuer une brochure de recommandations, donc un petit peu comme pour la grippe classique, hein, se laver les mains, porter un masque, ce genre de disposition, mais il n'y avait pas eu davantage de contrôle. Alors, je me permets aussi de rappeler, parce que tu as soulevé le fait que, surtout en Chine, ils prennent la température des personnes, ce qui n'a jamais été le cas en France. Alors, il faut savoir que la prise de température est tout à fait inefficace, dans la mesure où le délai d'incubation du virus est de 14 jours et une fièvre ne se déclare pas nécessairement dès le premier jour. Donc, le fait de prendre la température se révèle inefficace puisque ce dispositif, hein, cette solution qu'on a considérée et que considèrent toujours les Chinois comme première, est inefficace puisqu'on laisse passer des personnes entre les mailles du filet.
Il me semble aussi que le temps d'incubation n'a pas été rallongé de quelques jours.
Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Les scientifiques ont tendance à dire actuellement que le virus pourrait se développer au-delà des 14 jours qui avaient été constatés jusqu'à présent. Si vous avez des réactions par rapport à ce dispositif français, que je considère à titre personnel sous-dimensionné, bien sûr.
Moi, je pense qu'ils ne pouvaient pas imaginer à l'ampleur que ça allait prendre dès le départ. Enfin, je sais pas. Pardon, je sais pas s'ils savaient que ça allait se propager aussi vite. Je sais pas dans quelles conditions ils ont fait ça. Ça m'inquiète pas particulièrement pour revenir à ce que tu disais au début. Je pense que maintenant il y a des mesures qui sont prises et c'est une bonne chose.
Thomas ?
Moi, j'ai un autre point à souligner, c'est que je trouve ça assez inquiétant dans le sens où on a un peu du mal à trouver des informations solides par rapport à ce virus. Je vois que, par exemple, le taux de mortalité peut varier de journaux, enfin de médias, et on n'est pas sûr de nos sources.
Alors pourtant, il y a une collaboration internationale au niveau de la communauté scientifique avec des travaux qui sont partagés au niveau international pour pouvoir mettre en place un vaccin et des solutions médicales à ce virus. Je pense notamment à l'Institut Pasteur qui est très actif dans le domaine et qui a réussi à obtenir des souches en provenance de Chine pour pouvoir les étudier. Et par ailleurs, je me permets également de glisser cette petite information. L'Union européenne a mis en place une enveloppe de 10 millions d'euros pour pouvoir financer la recherche autour d'un vaccin pour solutionner ce problème de virus. Alors, j'ai envie de vous poser la question, la Chine gère-t-elle bien le problème à la source au sein de son territoire en lui-même ?
Moi, je pense que oui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mesures qui étaient prises, beaucoup de choses qui étaient faites. Par exemple, j'ai une amie qui vit actuellement en Chine, elle ne va plus à l'école, elle porte un masque dès qu'elle sort. Enfin, il y a des mesures de confinement, on va dire, qui sont faites. Et ça va permettre de limiter un peu la propagation du virus. Et même si c'est dur pour les habitants et pour les Chinois, je pense que c'est une bonne chose.
C'est vrai que leur dispositif, il est même impressionnant. Immobiliser une ville de plusieurs millions d'habitants pour une épidémie, c'est quand même impressionnant. La construction d'un hôpital tu disais en combien de jours? 10 jours?
Environ, oui, effectivement.
Environ 10 jours, c'est pareil, ils ont mis des moyens quand même.
Alors du coup, tu fais bien de rebondir sur cet hôpital qui a été construit en une dizaine de jours. Est-ce que ça, quelle est votre interprétation de cette construction aussi rapide? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de faire jaillir du sol un tel hôpital en un temps record n'est pas une réponse du gouvernement chinois à un certain laxisme au début de la crise sanitaire? Qui n'était d'ailleurs pas considéré comme une crise sanitaire au début.
Au début, peut-être qu'ils n'avaient juste pas suffisamment de place, donc ils se sont dit on va anticiper et on va créer plus de lits pour accueillir plus de potentiel.
Non, mais ma question est vraiment, est-ce qu'ils n'ont pas, dès le départ, sous-dimensionné le problème et quelque part, est-ce qu'ils ne l'ont pas négligé? La conséquence serait éventuellement cette construction en temps record de cet hôpital. Ces deux hôpitaux.
C'est un peu compliqué de savoir, étant donné que la Chine n'est pas très claire sur les informations qu'elle nous délivre. On peut pas, on ne sait pas trop combien il y a eu d'infectés au début, de malades, je veux dire. Si ça se trouve, ça a commencé bien plus tôt qu'on le pense et la réaction, elle est bien proportionnée.
D'accord, c'est ton point de vue. Le 30 janvier, l'OMS a déclaré le coronavirus comme une urgence sanitaire. Est-ce qu'elle a mis trop de temps?
Alors moi, j'ai un peu une idée floue du début de cette épidémie. Je ne sais pas trop quand ça commence, donc je ne sais pas. J'ai pas de référentiel pour ça.
Alors, on a parlé de cette épidémie, pardon, en début janvier. Hein. Oui, début janvier.
Mais est-ce que tu sais comment ça a commencé précisément?
Alors, effectivement, Sarah, tu fais bien de poser la question. Alors, ce virus a été transmis par voie animale, c'est-à-dire que le virus a été transmis simplement de petits mammifères à un plus gros mammifère. Alors, je n'ai plus le nom exact, hein, ça fait quelques jours que la communauté scientifique a trouvé le mammifère dont il est question, et en réalité, c'est un mammifère qui est consommé par les Chinois, et d'ailleurs, ils en raffolent. Et c'est de cette consommation de chair animale que le virus s'est transmis à l'homme, vraisemblablement.
Mais à la base, est-ce que c'est pas une maladie qui vient des chauves-souris?
Alors, on en a entendu parler, mais vraisemblablement, ça n'a pas été confirmé. Alors, je suis vraiment désolé, je n'ai plus le nom de l'animal exactement. C'est un mammifère assez important qui est réputé pour sa viande, et les Chinois en raffolent, effectivement. Voilà, alors cette première partie d'émission s'achève. On se retrouve juste après pour continuer ce débat après une courte page musicale.
Baby.
Cette seconde partie de l'émission de l'Actuality sur PFM 99.9. Je suis toujours en compagnie de Thomas, de Sarah et de Julie à la régie, et moi-même Arthur à l'animation. Alors, on évoquait précédemment le fait que l'OMS ait déclaré le coronavirus comme une urgence sanitaire mondiale. Mais alors, la question que je souhaiterais vous poser est, est-ce que la Chine, qui semble donc du coup faire pression sur l'OMS, a-t-elle raison de souhaiter protéger son économie en remettant en question la légitimité de cette qualification faite par l'OMS d'urgence sanitaire mondiale?
Bah, c'est sûr que le fait de qualifier cette épidémie d'urgence sanitaire mondiale, ça pourrait effrayer les
marchés.
Les marchés, les usines, ceux qui construisent et qui font construire en Chine. Donc ce serait un coup dur pour la Chine, sachant que son objectif c'est de régner sur le 21e siècle, être la première puissance, dépasser les États-Unis. C'est sûr que ça tombe pas au bon moment pour eux, et du coup je pense qu'ils cherchent un peu à étouffer l'affaire.
Je suis tout à fait d'accord, je pense que du point de vue de la Chine ce serait très problématique, et elle perdrait beaucoup dans sa place mondiale, et elle a raison de stopper l'affaire, même si pour le reste du monde, c'est pas très bien.
Mais elle a eu le même comportement au début de l'épidémie, quand elle cachait le nombre de cas. Hein. Au final, elle reste dans la même logique. Pour le reste du monde, c'est un peu une pensée un petit peu individualiste.
Effectivement, et donc du coup, la question maintenant que je souhaiterais vous poser par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que ce problème sanitaire pourrait devenir un réel problème économique pour la Chine, et problème qui pourrait s'inscrire du coup dans le long terme et pénaliser son concours par rapport aux États-Unis, puisqu'elle avait tendance à les dépasser, enfin elle était en bonne voie d'ailleurs pour les dépasser.
Tout à fait, tout à fait. Wuhan, il fallait savoir que c'était la Chine, enfin c'était la ville de l'automobile en Chine. C'est là notamment qu'il y a les usines de Peugeot, il me semble.
Notamment.
Et du coup, ils vont devoir stopper la production, je pense. Pour nous, ça va être plus la possibilité d'acheter de voitures Peugeot. Donc c'est une des multiples conséquences que ça aura sur l'économie. Bon,
ouais, je pense que ça peut provoquer une crise économique, non seulement pour la Chine, mais comme tu le disais aussi mondiale, parce que beaucoup d'usines sont présentes en Chine, beaucoup d'usines françaises, et donc ça va provoquer une crise assez importante.
La Chine, c'est l'usine du monde. Donc, si elle s'arrête, le monde s'arrête un petit peu quand même avec. Quoi.
Totalement, puisque la majeure partie des composantes de tout appareil, hein, notamment, est en provenance de Chine. Hein. C'est vrai que la Chine est la manufacture du monde, hein, dans la fourniture de pièces aux différents pays internationaux. Et en cela, ça pénalise et ça va pénaliser. On le voit d'ailleurs, hein, par exemple, Apple commence déjà à avoir des difficultés pour s'approvisionner pour la fabrication de ses téléphones. Alors, du coup, question qu'on pourrait se poser légitimement, c'est est-ce que cette crise au sein des usines chinoises ne permettrait pas aux pays occidentaux de se rendre compte notamment des conditions de travail, mais
de la dépendance.
De la provenance des composantes, mais aussi de la dépendance, tout à fait, parce que du coup, il n'y aura plus d'approvisionnement et il faudra faire sans. Et du coup, deuxième question, est-ce que ça ne va pas permettre une relocalisation partielle, du moins, et temporaire, de la production?
C'est un peu ce que recherchent un peu les États-Unis. Trump, il veut ramener les entreprises, les usines Apple, des GAFA, aux États-Unis pour créer de l'emploi. Et c'est un peu un prétexte pour lui. En plus, avec les élections qui arrivent, c'est tout bénéf pour lui, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça peut être tout d'abord un coup dur, mais finalement, comme tu le disais, ça pourrait s'avérer plus ou moins bénéfique. On pourrait se rendre compte effectivement de la dépendance de la France avec la Chine et ça pourrait au final, comme je disais, être très très bénéfique pour le reste du monde.
D'un point de vue peut-être philosophique, est-ce que les consommateurs ne pourraient pas, grâce à cette occasion, se rendre compte réellement des conditions de travail et de l'exploitation tout de même, hein, faites par les pays occidentaux vis-à-vis de la Chine notamment?
Je pense pas qu'il y ait besoin forcément de ça pour qu'on s'en rende compte. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont faites et c'est pas ça qui va... Ça peut peut-être aider, mais je pense pas que ce soit l'acteur majeur.
Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça pour se rendre compte. Mais je pense que si on avait vraiment une réelle prise de conscience des conditions de travail des travailleurs chinois, on n'aurait pas une telle consommation de biens.
Mais je pense qu'on en est tous un peu conscients, mais on ferme les yeux là-dessus, en quelque sorte.
C'est plus simple d'acheter des produits qui sont moins chers, de moins bonne qualité, et on ne fait pas attention à la provenance, ce qui est très mal. Et je pense que tout le monde, enfin une grande partie des personnes le savent, mais c'est plus simple de ne pas y faire attention.
Et on veut surtout pas prendre la place des ouvriers chinois aussi.
Mais il y a quand même des prises de il y a quand même des choses qui sont faites pour qu'on en ait conscience. Je sais qu'il y a des films dessus au cinéma, des choses comme ça, et je trouve ça très bien.
Oui, moi, à titre personnel, je pense que si on a si la crise sanitaire perdure en Chine et que les usines restent fermées sur le long terme, bon, c'est nuançable, hein, parce que on a constaté que certaines usines, recommençaient à reprendre la production progressivement, pas à plein régime avec tout leur effectif, mais progressivement. Mais cela dit, dans certains secteurs, ils n'ont toujours pas rouvert leurs usines. Et je pense que, à titre personnel, sur le long terme, s'il y a vraiment, non pas pénurie, mais rupture de stock dans certains domaines de consommation des pays occidentaux, je pense que ça pourrait occasionner une certaine prise de conscience, effectivement.
Moi, j'aimerais soulever une autre problématique, c'est est-ce que vous pensez que cette crise pourrait remettre un peu en cause le régime présent en Chine ?
Régime autoritaire.
Régime totalement autoritaire, oui.
Effectivement, le gouvernement chinois n'accepte pas du tout d'avoir son statut de seconde, voire première dans certains domaines, puissance économique mondiale, son statut de première puissance économique mondiale remis en cause, évidemment. Et en cela, il va vraiment s'attacher à ce que les travailleurs, si on peut appeler ça des travailleurs, hein, on peut sans problème les qualifier d'esclaves, hein, ils sont peut-être rémunérés, mais une misère. Le gouvernement chinois va chercher à tout prix à remettre les travailleurs, les esclaves, chacun utilisera le terme qu'il considère le plus adéquat, au travail pour pouvoir reprendre justement cette production et se rehisser, entre guillemets, au rang de seconde, voire première dans certains domaines, puissance économique mondiale.
Parce qu'il y a certains Chinois qui estiment que le gouvernement n'a pas fait suffisamment pour les protéger de cette épidémie. Est-ce qu'une révolte ou pas une révolution, mais un mouvement social pourrait apparaître en Chine? À l'image des Hongkongais avec les parapluies ou...
Oui, mais on a déjà, effectivement, et tu fais bien de mettre en lien, hein, on a traité les manifestations de Hong Kong, la révolte d'ailleurs de Hong Kong, la grande différence entre le Hong Kong et la Chine, et que Hong Kong a une indépendance quant à sa politique liée aux manifestants et manifestations, et en Chine, la répression est de mise en tout état de cause lorsqu'il y a la contestation, pardon, évidemment. Voilà, mais écoutez, est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose ? Non. Alors, nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment avec vous, chers auditeurs. Nous vous invitons à consulter notre profil Instagram pour découvrir l'essentiel de l'actualité de l'émission d'Actuality. N'hésitez pas à consulter également notre Facebook. Par ailleurs, nous informons que nous recrutons. Si vous êtes intéressé par la radio, si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes lycéen dans la Rajoie, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à prendre contact via Facebook, Instagram, et nous serons très heureux de vous accueillir au sein de nos studios pour animer à votre tour. Et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux débats. À bientôt.